ce soir plutôt dans le problème de la sociologie du protestantisme, mais cette fois-ci dans une approche un petit peu différente, qui est celle du doyen Carbonnier. Le doyen Jean Carbonnier, qui vient de publier il y a quelques mois un ouvrage tout à fait intéressant, qui s'appelle Coligny ou les sermons imaginaires. Et dans ce livre, le doyen Carbonnier se place résolument sur le plan de la sociologie du protestantisme, et plus exactement de la gestion du protestantisme. La thèse qui est la sienne, et qu'il développe dans ce livre, est que le protestantisme a été mal géré depuis tout un temps, et que s'il n'y a pas une reprise en main au niveau de la gestion de ce qu'il appelle la politique générale du protestantisme, non pas au sens politicien du terme bien sûr, mais la conduite des affaires, dans le sens de la conduite des affaires du protestantisme, doit être profondément revue. Et c'est donc, si vous voulez, une sociologie dans cette optique de la politique, c'est-à-dire de la conduite des affaires du protestantisme, que nous sommes appelés à envisager, parce qu'il y a des choses dans ce livre qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquelles il s'agit de s'arrêter, je crois. Il a voulu d'ailleurs que ce livre soit une interpellation pour le protestantisme dans son ensemble. Il ne semble pas, comme souvent, il en est souvent ainsi des prophètes, qu'il ait été beaucoup entendu, mais il vaut la peine néanmoins que son interpellation soit entendue, en tout cas par ceux qui veulent être à l'écoute de ce que dit l'Esprit-Saint. Alors, la première... quelque chose là que vous voulez poser ?
Non, je voudrais demander le titre.
Coligny ou les sermons imaginaires ? Sermons imaginaires, parce que dit Carbonnier, ils ne peuvent pas être prêchés parce que ce ne sont pas des sermons évangéliques, mais des sermons protestants. Alors, on est obligé de ne pas les prêcher, sauf un certain nombre d'entre eux qui pouvaient passer la rampe, quoi, hein. Alors, la thèse principale qu'il développe une des premières thèses en tout cas qu'il développe dans son livre, c'est que nous vivons aujourd'hui un temps de contre-réforme. Et que l'œcuménisme est une poursuite de la contre-réforme par d'autres moyens. Que pour ne pas l'avoir perçu, les autorités protestantes ont fait une erreur de gestion fondamentale, donc ont pris une orientation de leur politique qui est totalement erronée. Alors, il définit cette contre-réforme catholique non pas comme un plan machiavélique qui aurait été ourdi par le Vatican, mais tout simplement comme un réflexe romain qui fait partie de la nature même du catholicisme. Que l'expression contre-réforme, que l'on a employée au XVIe siècle, au moment du Concile de Trente en particulier, doit être compris au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit de contrer la réforme. Et par conséquent, aujourd'hui, l'œcuménisme ne serait rien d'autre, d'après Carbonnier, qu'une poursuite de cette politique par d'autres moyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous vivons aujourd'hui un temps d'affaiblissement du protestantisme mondial. Donc, un temps où, au contraire, l'Église catholique se renforce et se durcit, et où le protestantisme s'affaiblit. Alors, pour le doyen Carbonnier, cet affaiblissement du protestantisme n'est pas directement dû à l'œcuménisme, bien que l'œcuménisme y contribue, mais c'est un phénomène qui a commencé avec la Première Guerre mondiale. À une époque où deux puissances protestantes se sont affrontées militairement, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et par conséquent, c'est pour lui, notamment au niveau du tiers-monde, une situation qui n'a pas été comprise par ces peuples-là et qui a mené un coup d'arrêt dans l'expansion du protestantisme. entre les deux guerres, un autre phénomène a eu lieu, c'est la disparition des partis politiques protestants qui existaient dans ces grands pays. Et dans une perspective évangélique, on peut certainement se réjouir de cette disparition-là, mais sur le plan de la politique du protestantisme au sens où le doyen Carbonnier l'emploie, il y a eu un affaiblissement certain de l'influence protestante dans ces pays à partir du moment où cette influence n'a plus été sous-tendue par des partis politiques protestants. Car dans le même temps, des partis politiques catholiques, eux, non seulement ne disparaissaient pas, mais prenaient la place de ces partis-là. Les partis démocrates chrétiens, par exemple, sont essentiellement dans ces pays, comme l'Allemagne, par exemple, des partis essentiellement catholiques. Le protestantisme s'est, entre les deux guerres, à peu près partout en Europe, placé dans une situation de séparation de l'Église et de l'État, qu'il estimait conforme à sa vocation, et qui, ce faisant, avait comme résultat que la gestion des intérêts protestants dans ces pays-là n'était plus du ressort de partis, mais devenait l'affaire des responsables des églises, des leaders des églises. Et pour Carbonnier, les leaders des églises en question n'étaient pas prêts à assumer cette responsabilité dans la mesure où ils s'en étaient jusqu'alors déchargés sur les partis politiques protestants. Il y a eu, dit Carbonnier, de la part des leaders des églises, et là il pense plus particulièrement à la Fédération protestante de France, une candeur qui les a conduits à réagir avec certaine naïveté en face des problèmes, à se désintéresser finalement de la gestion des intérêts du protestantisme, alors que précisément la fédération protestante avait été créée dans ce seul but, c'est sa seule raison d'être, c'est en toutes lettres dans les statuts. Et cette candeur était accompagnée, dit Carbonnier, d'un intellectualisme stérilisant qui faisait que l'on n'était plus davantage prêt à voler dans des hautes sphères de la théologie, etc., que de s'occuper des problèmes terre-à-terre. Cet intellectualisme a aussi conduit dans ce que le doyen Carbonnier appelle un doute endormeur, et il est certain qu'on a assisté, notamment dans notre pays, à un affaiblissement certain de la foi qui a été certainement très démobilisateur dans bien des domaines. Et c'est pourquoi le doyen Carbonnier estime qu'aujourd'hui, en France, le protestantisme est à un tournant grave et qu'il a besoin de ministères qui l'éveillent à un certain nombre de réalités, pour ne pas dire qu'il a besoin d'un réveil, tout court, au sens spirituel et biblique du terme. Et pour lui, cette nécessité est tellement impérieuse que le problème se pose en des termes extrêmement simples. Il s'agit d'être ou de ne pas être, pour reprendre la fameuse expression de Shakespeare. Et pour reprendre alors les choses sur un plan tout à fait terre-à-terre, il se situe, comme il le dit lui-même, à ras de terre, eh bien, il constate d'abord que cette situation fait que les relations avec le catholicisme sont faussées à la base, parce qu'on ne peut pas construire la coexistence pacifique, qui est un des premiers buts de l'œcuménisme, entre un pays en expansion et un pays en déclin. Le pays en expansion étant le catholicisme, et le pays en déclin étant le protestantisme. Reprenant la thèse de Pierre Fitte sur laquelle nous nous sommes déjà arrêtés, où ce dernier définit le mal français comme finalement le décalque dans la société civile du système pyramidal romain. Si les protestants ont accueilli, dit Carboni avec intérêt, ce livre de Pierre Fitte, et s'ils y ont vu une analyse extrêmement lucide et un diagnostic qui ne l'est pas moins de la société française, Pierre Fitte dit qu'il était nécessaire, et il est nécessaire que, précisément, face à ce mal français dont les Français prennent conscience, le protestantisme propose des remèdes. Et il ne faut pas avoir peur, dit le doyen Carbonnier, de proposer comme remède le prosélytisme, simplement inviter les gens tout simplement à devenir protestants. Et il met les pieds dans le plat avec une élégance rare, il jette le pavé dans la mare, alors que c'est presque un mot tabou qu'il ne faut pas présenter. Et alors, pour lui, ils en font la question du prosélytisme, c'est-à-dire de l'accroissement numérique du protestantisme dans notre pays, est la question vitale qui se pose. De la réponse à cette question, de l'engagement dans un nouveau style de prosélytisme, dépend finalement l'existence ou la non-existence du protestantisme. Il faut choisir entre être ou ne pas être. Si l'on choisit d'être, il faut choisir de s'étendre, il faut choisir de grandir, il faut choisir, autrement dit, de redevenir militant, c'est-à-dire, pour parler un langage spirituel, il faut se remettre à évangéliser. Alors, Carbonnier pose la question en disant, bien, on dira que c'est une ligne dure que nous prenons là, mais encore une fois, le problème est beaucoup plus simple que cela, c'est de savoir si on continue à être ou si l'on accepte de ne plus être. Il revient constamment à cette vision-là. Et alors, dans un sermon qu'il appelle « Un peuple déraciné », qu'il intitule « Un peuple déraciné », Carbonnier définit ce qu'est la spécificité du protestantisme. Tout d'abord, pour lui, c'est la remise en question de l'Église institution. Et là, il rejoindrait assez bien Jacques Ellul dans cette vision de l'Église. Donc, la remise en question du système catholique, mais qui implique obligatoirement, dit Carbonnier, une résistance à une assimilation qu'il définit comme la facilité française à n'être pas protestant. Et là, à l'instar de Jacques Ellul, j'ai relu ce livre dernièrement, après avoir eu cet entretien avec Jacques Ellul que nous avons déjà évoqué ensemble, tout à fait intéressant de voir que les deux thèses se rejoignent, n'est-ce pas ? Pour Jacques Ellul d'une manière peut-être plus large que dans le cadre du seul protestantisme, mais finalement dans les mêmes remèdes qui sont proposés, le doyen Carbonnier fait aussi un parallèle entre le protestantisme français et le peuple juif. Le peuple juif qui n'est guère plus nombreux que le protestantisme en France et qui lui aussi est en danger d'assimilation dans la société française moderne, mais qui, au dire de Carbonnier, résiste beaucoup mieux que le protestantisme. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le protestant, et comme nous l'avons déjà dit la dernière fois dans notre première étude, il est, dans la société française, l'étrange étranger. Il reste un inconnu, souvent pour ses compatriotes et concitoyens, et un inconnu que l'on situe mal. S'il est vrai que sur un plan terre-à-terre, encore une fois, nous dit Carbonnier, il y a une réalité que nous devons envisager, savoir que toute religion sécrète une culture, une certaine forme de culture. Il y a une culture protestante, Et il y a une culture protestante française qui se diffère, qui est différente plutôt des cultures protestantes allemandes ou anglaises ou américaines, qui est typiquement française et qui fait que, en ce qui concerne le protestantisme, encore une fois sur le plan sociologique, nous avons affaire à un véritable peuple protestant. Car la culture crée un peuple. Et ce faisant, parce qu'il est un peuple, le peuple protestant est un peuple étranger en France. Et cette culture qui est la sienne, il a honte à l'extérioriser. Parce qu'il sait qu'elle est étrangère au pays dans lequel il vit. Cette culture dit pourtant Carbonnier est indispensable parce qu'elle représente le cadre social dans lequel la foi est communiquée et transmise. Et alors il donne quelques exemples pour montrer comment cette culture est mal perçue par le peuple français d'une manière générale, au moment même où le protestantisme, le protestant est perçu de manière positive, là il fait référence au fameux sondage que nous avons déjà examiné avec Richardot. Par exemple, il cite le cas des médias, où ce qui est protestant est systématiquement tourné en dérision. Il cite également des expressions qui reviennent constamment, par exemple en ce qui concerne le puritanisme. Le puritanisme qui est considéré en société française comme quelque chose d'hypocrite. Et par exemple dans les médias, lorsqu'il est question du puritanisme, c'est toujours affublé de l'épithète hypocrite. Le puritanisme hypocrite. Le puritanisme ne peut pas être autre chose qu'hypocrite. Et dit dans le fond, même le protestant ne sait pas ce que c'est que le puritanisme. Il ne sait pas que, par exemple, un des auteurs les plus lus en milieu protestant dans le monde entier, qui est Bunyan, le Voyage du pèlerin, vous avez peut-être lu les uns les autres, est un des produits les plus purs du puritanisme. Ce qui montre que, à terme, le protestant peut être aussi étranger à sa propre culture. Et là, alors il y a un autre phénomène qui joue, c'est justement ce danger de déculturisation. Il va y revenir tout à l'heure. Alors, nous dit Carbonnier, pour résister à cette entreprise d'assimilation, cette puissance assimilatrice de la société française, le protestantisme doit retrouver les réflexes anciens. À l'époque de la contre-réforme violente, le réflexe protestant avait été le désert. Le désert, c'était l'expression qu'employait les Cévenols, au moment des persécutions qui ont suivi la révocation de l'édit de Nantes, où dans le fameux réduit Cévenol, des cultes clandestins étaient organisés. Ils étaient organisés en plein air, dans des endroits déserts, d'où le nom de désert, les assemblées du désert, les réunions du désert, auxquelles on accédait ayant été averti de bouche à oreille par des gens sûrs pour éviter les trahisons, et qui non seulement étaient appelés déserts parce que c'était des endroits assez désertiques dans ces gorges des Cévennes, mais également parce qu'il y avait une référence avec l'époque où le peuple d'Israël était dans le désert, et en même temps avec la vision de l'Apocalypse 12, où la femme qui représente l'Église persécutée, ou le peuple d'Israël persécuté, enfin, les protestants de l'époque le considéraient comme l'Église persécutée, trouve un refuge au désert pour y être nourri un temps, des temps et la moitié d'un temps jusqu'à la fin de la persécution. Et cette sortie au désert pour les Cévenols était considérée comme le refuge aussi en face de la fausse sécurité du monde. Et bien entendu, il ne s'agit pas aujourd'hui, disait Carbonnier, de reprendre le même géographiquement la même démarche, mais de, en quelque sorte, de prendre du champ, de prendre de la distance par rapport à cette fausse sécurité du monde, pour que, dans la foi, le protestantisme se mette à nouveau à l'écoute de la parole de Dieu. Là, je crois qu'il rejoint tout à fait ce que nous disait Jacques Ellul, et qui est quelque chose d'extrêmement d'aussi intéressant. Alors, il étudie justement ce qui s'était passé dans cette période, qui était l'époque du désert, au 17e-18e, et il évoque en particulier ce qu'il appelle l'illégitimité protestante. Là, en tant que juriste, il fait une analyse tout à fait intéressante de ce qui s'était passé au moment où l'état civil, à cette époque-là, était tout entier entre les mains de l'Église catholique, si bien que les mariages ne pouvaient pas être célébrés autrement que dans le cadre de l'Église catholique. Ceux qui refusaient donc de se soumettre à cela, donc de se reconnaître catholique, de s'affirmer protestant, donc, n'est-ce pas, entraient dans la voie de l'illégitimité. Pour la société civile, pour la société française, ils n'étaient que des concubins, et les enfants qui naissaient de ces unions étaient des enfants naturels sans aucun droit. Et tellement sans aucun droit, d'ailleurs, qu'on n'hésitait pas à les enlever de force aux parents pour les élever dans des couvents et dans des institutions catholiques. Et là, ce n'est pas sans évoquer, d'ailleurs, un certain nombre de réalités que nous pressentons, qui ne sont pas encore, mais que l'on peut redouter dans notre société moderne, quand nous avons en particulier évoqué ces possibilités d'enlèvement d'enfants en Suède ou ailleurs, pour d'autres raisons, mais finalement qui relèvent de la même démarche. Il y a, à partir du moment où on prend une position de foi, nous dit Carbonnier, une illégitimité qu'il faut être prêt à assumer et qui conduit finalement à une sorte de marginalisation au sein de la société française. Il évoque comment, par exemple, à l'époque de la révolte des Camisards, il y avait des villages entiers où tous les gens étaient considérés comme vivant en union illégitime. Hein. Alors, il disait, c'est une sorte de mort. C'était ne pas reconnaître, affirmer cette illégitimité, c'était en quelque sorte condamner le protestantisme à mort, et il en analyse les implications sur le plan juridique en particulier. Et alors, précisément, pour lui, être protestant, aujourd'hui comme hier, eh bien, c'est savoir dire non. Ce non suicidaire que le protestant dit à l'idole, sans pour autant se couper de la société, tout en vivant à fond, pleinement impliqué dans cette société française. Il évoque comment de nombreux protestants sont à des postes de responsabilité élevés aujourd'hui dans l'État, à l'instar de ce qui se passait d'ailleurs en Israël en son temps, mais toujours en se souvenant que le protestant, dans cette société française dans laquelle il doit s'impliquer totalement, doit garder une réserve, un détachement, une certaine distance par rapport à ce qui se fait. En aimant ce pays qui est le sien, sans en adorer l'idole. Alors ceci implique une autre démarche, c'est que le protestant ne doit pas avoir honte d'être lui-même dans cette société française. Et il ne doit pas hésiter à s'affirmer pour ce qu'il est, de façon à préserver son identité à la fois dans l'espace et dans le temps. Souvent, il analyse un certain nombre d'ouvrages écrits par les protestants, cette identité est affirmée, mais avec des excuses. Comme si finalement, le protestant avait honte d'être ce qu'il est dans la société française. Et nous dit Carbonnier, cette attitude ne se trouve pas chez les juifs, qui qui pourtant se trouve confronté fondamentalement au même type de problème. C'est, nous dit Carbonnier, parce que la position, la situation du français, du protestant en France plutôt, est plus fragile que celle du juif. Le juif, d'abord, il a un système de loi qui souligne très fort cette identité qui est la sienne. Il a la circoncision. Il a une culture qui est très typée. Il a l'État d'Israël avec lequel il lui est possible de s'identifier. Le protestantisme n'a rien de tout cela. Le protestant est d'autant plus en danger d'être assimilé que lui précisément, il n'est pas distinguable extérieurement. Il est un Français apparemment comme les autres. Si la situation en France était l'inverse de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y ait 92% de protestants et 2% de catholiques, 2 ou 4% de catholiques, alors la position des catholiques en tant que micro-minorité serait plus forte que ne l'est celle des protestants, car il y aurait, pour ce qui est des catholiques, l'identification avec Rome. Le protestant, son royaume n'est pas ce monde. Il n'a pas de cité terrestre. Il n'a pas de Jérusalem terrestre avec laquelle il peut s'identifier. Et son souhait, son désir, sa vocation d'être essentiellement religion de l'esprit le place sur le plan terrestre dans un état d'extrême vulnérabilité. Il est difficile d'être la religion du Saint-Esprit. D'autre part, ce qui vient encore compliquer la situation du protestantisme en France et qui rend plus difficile l'affirmation de son identité, c'est qu'il a de nombreux points communs avec les autres chrétiens. Qu'il le veuille ou non, il est lié. Il est proche, par bien des aspects, du catholicisme, en ceci que, dans le fond, il est aussi basé sur la révélation chrétienne, biblique, comme l'est aussi jusqu'à un certain point le catholicisme. Et précisément, la question première et essentielle que les responsables protestants devraient se poser, c'est jusqu'où aller avec le catholicisme dans l'œcuménisme. Voilà la question brûlante et voilà la question urgente. Est-ce que l'amour de la paix, qui est quelque chose de foncièrement évangélique et qui anime maintenant le protestant, le désir d'unité doit conduire à l'imitation? Aujourd'hui, il n'y a plus dans le protestantisme français de grands desseins. Il n'y a plus de but. Le seul grand dessein qui existe, le seul but, c'est l'œcuménisme. C'est par conséquent la réunion avec Rome. Or, il suffit simplement d'un minimum de bon sens, nous dit Jean Carbonnier, pour voir combien ce grand dessein est incompatible avec la quête de l'identité. C'est absolument antinomique et contradictoire. C'est précisément cette exaltation de l'Église visible qui a fait le catholicisme. Et ce qui fait la réforme, c'est que précisément le protestantisme rejette cette exaltation de l'Église visible. Au nom du soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Et de cela scriptura, l'Écriture seule. Il y a une différence, une opposition entre l'Église institution et finalement la parole de Dieu, qui se situe au-dessus de l'Église-institution. Alors, dit Carbonnier, il est impossible d'insérer une Église ouverte dans une Église fermée, qui est l'Église romaine. Maintenant, il y a un autre aspect aussi que Carbonnier étudie quand il revient sur le sondage de l'IFOP qui montre la sympathie que le protestant rencontre en France. Et la question qu'il pose est celle-ci: cette sympathie est-elle inconditionnelle? Que se passerait-il si, brusquement, d'ici quelques années, à la suite précisément d'un changement de politique ou d'un réveil, le protestantisme atteignait un nombre de personnes important en France, de l'ordre de 5 à 6 millions, même éventuellement 10 millions, que se passerait-il? Et là, il y a un débat entre lui et Richardot, dans ce sens que Richardot dit, eh bien, ça ne changerait rien, parce que c'est ce que les gens, et ce que les Français pensent des protestants. Ils pensent qu'ils sont ce nombre-là. Certains vont jusqu'à dire qu'il y a 20 millions de protestants en France. Par conséquent, s'il y avait réellement 6 ou 10 millions de protestants en France, ça ne changerait rien au capital de sympathie que les Français ont vis-à-vis des protestants. Et ça, Carbonnier le conteste. Il dit, oui, le Français moyen croit qu'il y a autant de protestants que cela, mais s'il y avait autant de protestants que ce que l'on pense qu'il y a, ça changerait les choses en France. Et là, peut-être que justement, il y aurait aussi un bouleversement au niveau des mentalités. D'autant que si le Français moyen pense qu'il y a, disons, entre 6 ou 10 millions de protestants, ceux qui tiennent les leviers de commande en France, eux, sont beaucoup plus informés. Et ils savent quelle est l'importance numérique réelle du protestantisme en France. Et c'est d'eux que cela dépend. Si le protestantisme doublait au point de vue effectif ou triplait, il y a tout lieu de penser, dit Carbonnier, qu'alors ceux qui ont les leviers de commande réagiraient. Ce qui permet de conclure de cette manière, nous dit Carbonnier, c'est la réaction de ces mêmes pouvoirs publics devant la prolifération et le dynamisme et l'expansion de sectes microscopiques et minuscules. Si ces gens qui se contentent de progresser de quelques centaines de personnes par an, et encore, n'est-ce pas, provoque un tel émoi au sein des pouvoirs publics, qu'en serait-il si le protestantisme en tant que tel se mettait à doubler ou à tripler? Là, je crois qu'il y a une question tout à fait intéressante. Il y a une hostilité foncière des pouvoirs publics et des centres de décision. Alors, Carbonnier dit, là, il faut réaliser que nous sommes dans cette perspective de contre-réforme. Et le protestantisme aussi, au niveau des pouvoirs publics, est sympathique dans la mesure où il entre dans cette vision de l'œcuménisme, c'est-à-dire finalement dans cette reconstitution de l'unité qui est, l'idole essentielle en France. Tout doit être ramené à l'un, y compris au niveau des pouvoirs publics. Et c'est pourquoi il est indispensable, si nous voulons renverser la tendance et continuer à être, eh bien, de se désinstitutionnaliser et de faire connaître au peuple français, malgré les risques que cela comporte, eh bien, autre chose, une autre analyse, un autre regard sur les choses et sur les événements. Une vision protestante des choses. Alors se créerait, il est vrai, dit Carbonnier, une marginalité protestante dans la société française. Et cette marginalité irait à l'encontre de la tendance actuelle qui est celle de l'intégration. Nous sommes sur une pente dangereuse parce que nous sommes dans un processus d'intégration. d'intégration dans une société qui est une société non protestante. Alors, on trouve un peu partout des manifestations de cette intégration, nous dit-il. Où le protestantisme, reprenant ce que disait Richardot, n'est pas considéré comme autre chose finalement qu'un laboratoire où s'élabore un certain nombre d'expériences nouvelles, de pointes, qui ne peuvent être qu'imitées. Il y a cette tentation d'une force assimilatrice de la société qui se manifeste de plus en plus. Bien entendu, là, il parle surtout du protestantisme sociologique. Et face auquel la seule réponse, nous dit-il, est la création de petites communautés informelles et qui automatiquement prennent du champ, donc se marginalisent. Il faut que se crée face au protestantisme marginal, au protestantisme intégré, un protestantisme marginal. Et lui propose la création de groupes Coligny, parce que Coligny, pour lui, était celui qui représente justement ce non, ce refus suicidaire, dit-il, dans la société française. Et par conséquent, l'exemple même du protestant. Alors, il dit, ce qui est également difficile, c'est de dire non. Parce que ce qui est négatif, dit-il, tend à l'invisibilité. Ce qui est négatif est fragile. Et pourtant, il dit, c'est le seul moyen pour le protestantisme de sauvegarder son identité. La marginalité, n'importe comment elle existe. Qu'on le veuille ou non, le protestant est marginalisé. Alors, il en donne quelques exemples. Cette marginalité peut être acceptée, refusée ou revendiquée. La refuser, c'est suicidaire. L'accepter ne suffit pas. Il faut la revendiquer. Et là, il prend par exemple le cas d'Irlande, montrant que les histoires d'Irlande ont amené en son temps, enfin, c'était il y a une dizaine d'années, une véritable déferlement anti-protestant dans les médias français. Et il termine par un chapitre qu'il appelle « Vouloir être ». Vouloir être, c'est d'abord proclamer un message. Et le message, finalement, c'est l'Évangile, c'est le christianisme. Il faut que le protestantisme soit convaincu qu'il est la forme la plus authentique du christianisme. S'il a le moindre doute à ce sujet-là, il n'a plus aucune raison d'être. Il ne s'agit pas de nier les autres formes de christianisme, mais il faut être profondément persuadé que sa manière de vivre et de comprendre l'Évangile est la plus vraie, la plus authentique. Il faut que le protestantisme redevienne ce qu'il aurait toujours dû être et ce qu'il devrait être, le peuple de la parole. Cette parole, cette prédication de la parole qui est la sienne, il faut qu'il croie qu'elle est plus vraie qu'une autre. Il faut deuxièmement que le protestantisme n'ait pas peur de répandre ce message, le populariser dans un vaste mouvement d'évangélisation. Et ce faisant, il faut que le protestantisme prenne ses distances vis-à-vis de l'œcuménisme. Il va jusqu'à dire que l'œcuménisme devrait être mis entre parenthèses jusqu'à ce qu'il y ait un rééquilibrage des forces. Et alors, pour lui, évangéliser, c'est assez intéressant ce qu'il nous dit là, c'est évangéliser en profondeur. Pas d'une manière un petit peu comme, enfin, c'est moi, ça c'est mes mots à moi, comme on le fait d'une manière à distribuer des tracts, etc., etc., mais populariser, d'abord, sensibiliser l'entourage à la vision protestante des choses. Et notamment en allant en priorité vers ceux qui sont bien disposés vis-à-vis de l'Évangile. Il y en a, et le sondage de l'IFOP le montre, n'est-ce pas ? Et par conséquent, il faut sortir de son ghetto, pour populariser les thèses du protestantisme, les présenter à ces gens-là comme une alternative possible. Non pas gommer les différences en montrant qu'après tout c'est tout pareil, mais accentuer au contraire ce qui fait la spécificité du protestantisme pour, d'une part, sa propre sauvegarde et d'autre part, pour permettre à ceux qui sont à la recherche d'autre chose, eh bien, de montrer qu'il existe une autre voie. Autrement, on court un risque d'ethnocide spirituel et culturel. Et là, Carbonnier s'en prend assez vivement aux responsables actuels de la Fédération protestante, qui sont toujours prêts à voler au secours de telle et telle peuplade à droite ou à gauche dans le tiers-monde, menacée de ceci ou menacée de cela, etc. Menacée notamment de ce qu'on appelle aujourd'hui les ethnocides, par extension du terme génocide, c'est-à-dire extermination physique d'une race, ethnocide, extermination d'une culture. Donc, pas obligatoirement par des moyens violents, mais finalement extermination d'une culture par sa négation, etc. Et au niveau, c'est exact, au niveau de la Fédération protestante, on est en général très sensibilisé à ce genre de problème, notamment ce qui concerne le tiers-monde. Et avec, dans un ton assez ironique et presque sarcastique, Carbonnier s'en prend à ces gens qui sont prêts à voler au secours de ces ethnocides à droite et à gauche et qui ne se rendent pas compte qu'il existe en France même actuellement un véritable ethnocide, qui est l'ethnocide justement de la minorité protestante. Sa déculturation. Dans la mesure où l'on est adulé, et c'est sa conclusion du sondage de l'IFOP, dans la mesure où l'on est réputé inoffensif. Par conséquent, il faut redevenir, dit Carbonnier, agressif. Dans le sens positif du terme, bien sûr. Non pas en prenant une attitude de réserve, de retrait, mais au contraire en affirmant ce que l'on est, tout simplement. Alors, il termine par une interrogation sur l'avenir. Existe-t-il au protestantisme un avenir en France? C'est une question d'ailleurs que le doyen Mel aussi avait posée à la dernière assemblée du protestantisme. Alors il dit bien entendu, je ne pose pas cette question ici dans le sens spirituel, en ce sens que il y a toujours le miracle de Dieu qui fait qu'il y a la préservation surnaturelle d'Israël. Mais ceci ne nous dispense pas, cette foi dans la pérennité, en quelque sorte, de l'Église, dans le plan de Dieu, ne nous dispense pas de réfléchir sur un plan pratique à ce qui doit être fait, n'est-ce pas, à cette dimension de la politique à suivre, la politique générale à adopter, et ne nous dispense pas, en particulier, de faire ce que nous avons à faire. Et il serait bon de se dire qu'après tout, il existe un avenir au protestantisme en France dans la mesure où les protestants sont prêts à construire cet avenir. On peut très bien renoncer à ce qu'il y ait un avenir. Et il prend par exemple le cas des mariages mixtes, un certain nombre d'accords qui sont en train d'être plus ou moins concoctés avec l'Église catholique au sujet des enfants qui naissent de ces mariages mixtes, qui sont de plus en plus nombreux. Où finalement les enfants issus de mariages mixtes ne seraient plus ni catholiques ni protestants, mais seraient œcuméniques. Alors, s'il en était ainsi, dit Carbonnier, s'il en était ainsi, le catholicisme perdrait, en l'espace de, donc sur un certain nombre d'années, il perdrait 2 millions de catholiques en France. Mais en même temps, il n'y aurait plus de protestants. Automatiquement, il n'y aurait plus de protestants. Alors, il faut être sage, il faut raisonner d'une manière avec bon sens, et puis adopter une politique qui soit une politique de bon sens. Alors, premièrement, en ce qui concerne l'œcuménisme, encore une fois, une politique de petits pas, et une révision déchirante des postulats de base de l'œcuménisme, à savoir que la réforme est née finalement uniquement de malentendus avec le catholicisme, et que par une série de concordats, on pourra finalement surmonter ces malentendus. En fait, dit Carbonnier, c'est une vision tout à fait stupide, parce que ces concordats amèneront des nouvelles dissidences, qu'on le veuille ou non. Et ce qui se produira à ce moment-là, ce sera un rétrécissement du protestantisme, et non pas, finalement, la reconstitution d'une Église une. D'autre part, si vraiment l'Église romaine entre dans la vision d'une Église pluraliste, alors il n'y a pas besoin d'unité, au sens structurel du terme, au sens où Rome l'entend, ça, il suffit tout simplement de vivre la pluralité telle qu'on le fait actuellement. Sinon, le protestantisme n'est qu'une parenthèse qu'il faut refermer et qui ne se justifie plus. Ce que craint Carbonnier, c'est plus un effritement qu'un effondrement. Il s'agit, dit-il, de rester soi-même. Il s'agit d'affirmer bien haut que l'Église, l'institution, est seconde par rapport à la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu est première. Affirmer la liberté chrétienne par rapport à l'institution et surtout ne pas regretter la réforme. On retrouve ici ce qui est maintenant le grand slogan de l'œcuménisme, dans la mesure où il stérilise l'évangélisation. Restez dans vos églises, restez chacun ce que vous êtes. Il est important, par conséquent, de ne plus officialiser l'œcuménisme et, comme je disais tout à l'heure, de le suspendre jusqu'à ce que les choses soient rééquilibrées. Deuxièmement, le grand dessein du protestantisme devrait être un projet missionnaire. Alors, il est certain que, face à ce projet missionnaire, le champ est étroit. Il s'agit de réaliser que un prosélytisme maladroit, un prosélytisme qui serait trop agressif au sens pas si négatif du terme, eh bien, entraînerait des conséquences négatives également, en ce sens qu'elle provoquerait un effritement du capital de sympathie dont le protestantisme jouit. Par conséquent, la marge de manœuvre, dit Carbonnier, pour l'évangélisation est extrêmement étroite. Mais précisément, c'est aux responsables, dit-il, des églises, d'explorer ce champ et d'y entrer avec toute la prudence et avec toute l'audace aussi qui est nécessaire. Et ce qui est important également, c'est la constitution, disait-il, de la revendication de cette marginalité dans des communautés qui s'assument pleinement et qui n'hésitent pas finalement à avoir cette vision missionnaire. Et il termine en disant finalement, le protestantisme sera protestant ou ne sera pas. Voilà en gros, si vous voulez, la thèse du doyen Carbonnier en ce qui concerne cette vision sociologique du protestantisme. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que elle peut sembler extrêmement intégriste au sens protestant du terme, mais elle paraît extrêmement lucide. On pourra également objecter qu'elle est peu spirituelle, qu'elle ne fait pas tellement allusion à l'Évangile, à la grâce de Dieu, finalement, aux grands thèmes qui sont ceux du protestantisme. Mais dès le départ, Carbonnier s'en explique, non pas qu'il ne croit pas à ces choses, non pas qu'il ne croit pas que le protestantisme français ne soit plus au bénéfice de cette grâce de Dieu, mais parce que, justement, il tenait surtout à rappeler au protestantisme que cette foi qui est la sienne dans la grâce de Dieu ne doit pas le dispenser d'une analyse lucide des choses, et finalement d'une gestion de ses intérêts. Car si l'on croit vraiment que le protestantisme est la forme la plus authentique du christianisme, et autrement, dit-il, ce n'est pas la peine d'être protestant si on ne croit pas cela, alors il y a un certain nombre d'intérêts minimums qu'il faut préserver. Et par conséquent, il faut une analyse, il faut une lucidité, et il faut un certain nombre de décisions qui aillent dans le sens de ces intérêts-là. Et finalement, c'est à nous inviter à réfléchir sur ce domaine, que Carbonnier veut le faire au travers justement de, de ce livre. Bon, l'histoire des groupes Coligny, bien sûr, c'est plus dans la vision réformée, et ici, il est certain que c'est une vision que, d'une certaine manière, rejoint assez facilement la nôtre, non, sur bien des points, que ce soit sur le plan missionnaire, surtout d'une évangélisation en profondeur, et non pas simplement d'une évangélisation superficielle, une évangélisation, donc, dans un ensemble de réalités qui sont extrêmement délicates, mais en même temps, je crois que là où il a aussi le mérite de nous interpeller, c'est quant à l'œcuménisme, quant à une mise en garde sérieuse vis-à-vis de l'œcuménisme, et finalement, qui va assez dans le sens du recentrage que nous envisageons depuis tout un temps à ce niveau-là, et qui, je crois, est de plus en plus indispensable et de plus en plus nécessaire. Autre élément intéressant aussi, c'est ce qui concerne ces communautés dont il parle, ces communautés qui non seulement acceptent la marginalité, mais la revendiquent sans complexe, pour permettre, dit-il, la manifestation d'un cadre socio-culturel où la foi peut se transmettre. Carbonnier, très justement, nous dit que la foi ne peut pas se transmettre comme ça, d'une manière éthérée, sans un environnement social. Finalement, ce qui rejoint, c'est la parole biblique, on ne peut pas être chrétien tout seul dans sa chambre, ce que voudraient faire beaucoup de gens. Alors lui, évidemment, propose un certain nombre de méthodes d'évangélisation qui sont un petit peu contestables, discutables, par exemple la télévision, ou bien faire un système d'évangélisation comme la Redoute, par correspondance, ou en VF, etc. Bon, enfin, là, on peut discuter, mais enfin, sur le principe... Ce qui se fait un peu d'ailleurs dans certains milieux avec les cours publics par correspondance, c'est un peu l'idée en fin de compte. Quoi. Mais en tout cas, il a le mérite justement de nous alerter à nouveau sur cette question extrêmement importante et qui évidemment, tout en se situant sur bien des points sûrement aux antipodes de ce que nous sommes, nous rejoint nos analyses, nos réflexions sur bien des points. Voilà, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, poser une question ?
Ça permet de mieux comprendre qu'en trouvant un des profs qui connaissait donc Carbonnier, un prof de droit, disait que Carbonnier s'intéressait aux minorités protestantes essentiellement,
oui.
Et donc à toutes les petites églises et
oui.
De la réforme.
Parce qu'il y voit effectivement un espoir de renouveau.
Il
voit
quelque chose qui est dans le sens
absolument.
C'est digne, quoi.
Oui.
Du coup, surtout quand on connaît que Carbonnier. Au point de vue de sa vision des lois et tout, c'est ultra libéral.
Mais oui.
Alors donc, ça fait un peu étonnant de découvrir ce terme.
Mais non, parce que oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, son livre permet de comprendre cette attitude-là, quand il parle justement de ce détachement, de cette implication à la société française à fond, mais avec une distance, oui. Avec ce retour au désert permanent, quoi, oui. Ce ressourcement au désert.
Parce que là, vraiment, c'est une découverte d'un autre carbonique que je
faisais. Oui. Bien, qui veut dire quelque chose. Une thèse intéressante, en tout cas. Peut-être en discuter certains aspects, mais la thèse dans son ensemble est intéressante. Je n'ai pas connaissance de réaction catholique. Les réactions protestantes ont été pratiquement nulles. Je crois que c'est quelque chose qui est passé pratiquement inaperçu. Un petit peu comme la parole humiliée, quoi, finalement. Dans la mesure où c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que le protestantisme, des grandes préoccupations protestantes de l'heure, c'est pratiquement nul. Yvon Char se trouvait dans le même groupe de travail que lui à l'Assemblée Générale de La Rochelle, et il est allé le voir pour lui dire qu'il avait beaucoup apprécié son livre, le remercier, etc., et lui dire qu'il partageait sur bien des points son analyse. Et Carbonnier lui aurait dit ceci, oh, « Nous sommes une minorité », avec un air un peu amer et désabusé. Quoi. Nous sommes une minorité à penser comme ça. Quoi. Mais il est certain qu'au rythme où vont les choses, d'ici, je ne sais pas moi, quelques années, si les choses ne changent pas, là il a tout à fait raison, il n'y aura plus de protestantisme en France. si ce n'est un certain nombre de bastions, etc., à droite ou à gauche, quoi.
Ils
ont
fait que sont les plus conscients parmi les protestants
de cette évolution-là. Quels sont ceux qui sont les plus conscients? Je me demande. Je me demande s'il y en a beaucoup qui sont conscients. Un homme comme Coumont, peut-être, serait assez conscient de ça. Coumont, là, qui est venu au début du mois, du mois dernier. Comment? De Nantes, oui. 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 Comment, je ne vois pas trop qui. Mais la thèse de Carbonnier, là, prend de plein fouet tout ce qui se dit, ce qui se pense en milieu protestant. D'abord, comme il le dit, parler de prosélytisme, mais c'est un scandale. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le protestantisme, j'entends réformé, luthérien, etc., enfin les grandes églises protestantes, ne sont plus missionnaires, en rien. Y compris la mission Outre-mer. La mission Outre-mer, c'est l'aide au tiers-monde, c'est construire des routes, creuser des puits, soigner les petits noirs, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a rien. Mettre en question l'œcuménisme, mais c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, il a touché juste, c'est le grand dessein. Alors ça, c'est pas... Là, il prend à rebrousse-poil quelque chose qui se fait, qui se dit à fond, quoi. Hein. Parler d'une marginalité revendiquée, mais c'est exactement le contraire qu'on cherche à faire. Alors là, il est certain que il n'a pas un message populaire, quoi, il n'y a pas de doute. C'est comme la parole du milieu.
Et sur l'hypothèse de l'union des protestants entre la thèse de Charbot et de Louis Carbonnier, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que Carbonnier a raison. Quand on voit l'agitation au sujet des sectes, c'est clair. C'est clair. Enfin, et si nous, en Bretagne, on sent plus qu'ailleurs. Encore, parce que on est encore plus micro-minorité, et puis le catholicisme est beaucoup plus fort. On sent bien qu'automatiquement, il y a un phénomène de rejet, à partir du moment où on progresse. Hein? Encore une fois, il dit, le protestantisme est sympathique dans la mesure où il est inoffensif. Et justement, il faut redevenir offensif, quoi. Alors, automatiquement, c'est aller au-devant de problème, quoi. Et c'est bien comme ça qu'on est perçu, comme des gens, nous, qui sommes dangereux. Cette idée aussi qu'il souligne souvent, que dans le fond, il faut croire, hein, ce qui paraît une évidence d'ailleurs, que le protestantisme est la forme la plus proche du christianisme. Autrement dit, c'est pas la peine d'être protestant. Ben ça, c'est quelque chose qui prend les gens de plein fouet. Parce que dans la vision pluraliste, etc., votre catholicisme est aussi valable que notre protestantisme, et puis vous qui êtes orthodoxe, et puis vous qui êtes ceci, etc. Ça, c'est pas des choses à dire, quoi. C'est pas des choses à dire. À la rigueur, qu'on le pense au fond de soi-même, mais qu'on jette un voile pudique là-dessus, très pudique, n'est-ce pas? Mais qu'on le dise, qu'on l'étale comme ça, le pavé dans la mare comme il le fait, non. C'est inconvenant, quoi. Bien, est-ce qu'il y a encore autre chose? Finalement, je crois qu'on pourrait étendre aussi sa thèse, d'une certaine manière, au catholicisme, ou du moins une partie du catholicisme. C'est que finalement, c'est tout le christianisme qui se trouve un peu dans cette situation de désert. Bon, le catholicisme tient mieux, bien sûr, pour différentes raisons, qu'il analyse d'ailleurs, l'existence de Rome, le pape, etc., vision politique, tout. Mais finalement, le christianisme véritable, authentique, qui, pour un petit peu contrebalancer ce qu'il dit, existe aussi en dehors du protestantisme, bien entendu, eh bien, finalement, court le même danger, le même risque. Alors, bien entendu, il y a la possibilité qui n'exclut pas d'un réveil,
d'une intervention de Dieu, etc. Mais finalement, je crois que ce qui est tout à fait juste, c'est que dans une perspective humaine qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main, parce que dans le fond, c'est une hypothèse qui pourrait très bien se produire, et a priori, il n'y a aucune raison de croire que cette hypothèse qu'on peut qualifier de pessimiste ne sera pas, si le pire n'arrive pas toujours, le pire arrive aussi parfois, eh bien, ce qui est important, c'est de savoir faire la jonction, si je peux dire, entre cette période dans laquelle nous sommes maintenant, qui est une période d'affaiblissement, etc., et puis éventuellement l'étendre rafraîchissement que Dieu pourrait donner dans un avenir que nous ne connaissons pas. Mais en tout cas, il faut nous organiser pour subsister, pour revitaliser autant que se faire le protestantisme. Et dans le fond, c'est pour ça que les catholiques nous ont collimateurs à l'heure actuelle. C'est parce qu'ils sentent qu'on est en train de revivifier un peu le protestantisme. Regardez par exemple ce que disait M. Marzel, là, et, bon, même nos braves frères protestants réformés là, qui construisent, etc. Bon, c'est un peu grâce à nous, si j'ose dire, paradoxalement, parce que c'est nous qui les avons émoustillés, on a été un espèce de d'aiguillon pour eux, et bon, ils se sont ressaisis, ils disent, faut pas que nous, qui sommes des vieux protestants, des vieilles souches, etc., on se laisse doubler par ces gens-là, donc allons-y. C'est bon, ça. Si on peut les revivifier, ne serait-ce que par ce moyen-là, c'est pas mauvais. Entendu, il faudrait qu'ils arrivent vraiment à l'évangile à fond. Enfin, il y a quelque chose, là, et dans le fond, les catholiques le sentent. Les catholiques le sentent. Et c'est pour ça que, par exemple, le centre missionnaire à Carré est en plein dans leur collimateur. Parce qu'ils ont compris que là, il y avait quelque chose, quoi. Mm-hmm. Il y avait un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur.
C'est Romain.
Romain, en plus. C'est
dans la potion logique.
Quelqu'un disait quelque chose, hein? Bernard, je crois.
Pour lui, l'œcuménisme, c'est quelque chose que vraiment à proscrire.
Peut-être pas à proscrire, mais il dit à mettre entre parenthèses, parce que dans le fond, c'est l'alliance de l'eau et du feu, quoi. Mm-hmm. On n'a pas une coexistence pacifique entre un empire en déclin et un empire en expansion, parce qu'automatiquement, c'est le gros qui va manger le petit, c'est évident. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que on prenne une certaine distance, dit Carbonnier, que le protestantisme se redevienne lui-même d'abord, ce qui est sa première exigence. Deuxièmement, grandisse sur le plan du numérique, etc. Et à ce moment-là, reprenne prudemment les relations avec le catholicisme. Ça me paraît très, très judicieux, très plein de bon sens comme réflexion. Et finalement, c'était un petit peu ce à quoi nous nous acheminions, parce que dans le fond, on a fait cette expérience, nous, dans l'œcuménisme, que finalement, à force de gommer les différences, on perdait notre identité. On était perçus finalement comme des gens qui étaient en marche vers Rome, etc., etc. Et c'est pour ça que depuis tout un temps, sur le plan de l'œcuménisme, on a été amené à réaffirmer un certain nombre de choses qui ont provoqué d'ailleurs un certain nombre de tensions avec les catholiques, mais on a senti qu'il le fallait. Bon, non.